religions du monde, Geneviève Delru.
Je suis en vacances à Lourdes pour le pèlerinage naturellement. C'est tout avec tous les malades. Et moi, je suis malade aussi.
Et pourquoi vous venez à Lourdes?
Pour me recueillir. Pour voir la Vierge. On peut toujours avoir espérance. Hein, voilà. Et tous mes amis, je me suis fait ici. Ah, j'ai fait beaucoup d'amis ici. Hein. Ah oui.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à Lourdes, au cœur du sanctuaire marial, que nous vous entraînons ce dimanche avec le reportage de Manon Meyer-Ilfiger, qui a mis ses pas dans ceux de Thierry Demézières et d'Alban Turlet, les réalisateurs du documentaire Lourdes, sorti en salle le 8 mai dernier et qui a dépassé les 200 000 entrées. Manon Meyer-Ilfiger, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Les deux réalisateurs ont réussi à exprimer en images le phénomène Lourdes, non pas les guérisons inexpliquées reconnues comme miracles, par l'Église, 70 au total, mais ces rencontres, ces moments de grâce, j'allais dire, entre malades et bénévoles au cœur de la petite ville pyrénéenne qui accueille depuis début juillet une comédie musicale, Bernadette de Lourdes, une super production à gros budget. Et là encore, le succès est au rendez-vous. Alors, 2019, c'est sans aucun doute l'année Lourdes. Manon, vous aussi, vous êtes allée à la rencontre de ces hommes et de ces femmes cabossés par la maladie, par les difficultés de la vie, à la rencontre de ces bénévoles, jeunes, moins jeunes, accros, eux aussi, à Lourdes et dans ces lieux emblématiques que sont la grotte et les piscines.
Lourdes, selon la communication du sanctuaire, c'est 3 millions de visiteurs par an. Et parmi eux, un tiers de pèlerins. Ce chiffre est en baisse de par le vieillissement du public et puis l'érosion de la pratique religieuse et enfin les billets de train qui sont trop chers. Mais Lourdes bénéficie de tous ces inconditionnels qui viennent chaque année, le plus souvent l'été, avec un pic d'affluence notamment lors du pèlerinage national. Le pèlerinage national, c'est du 11 au 16 août cette année. Et puis, il y a aussi les pèlerins de la région. Eux font parfois le voyage plusieurs fois dans l'année. C'est le cas d'Hélène et Christine. Elles habitent Orthez à seulement 1h30 de Lourdes et j'ai fait le voyage avec elles. Hélène ne tarit pas d'éloges sur Lourdes.
Non, mais Lourdes, c'est quand même, il y a quelque chose. J'ai souvent été me confesser à Lourdes, surtout quand j'étais pas bien, après l'hospitalisation, tout ça. Et si tu veux, les prêtres toujours très très à l'écoute, de très bons psychologues. Alors, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est eux? J'en sais rien. Mais en tout cas, le résultat, il est bon.
Voilà. Christine, pourquoi tu vas à Lourdes?
Parce que j'en ai besoin. Mes gènes me disent qu'il faut que j'y aille. Et surtout mon cœur, en fait. Et j'en ai besoin. Il y a une paix, une présence. La Vierge m'apporte tous les jours. Et c'est juste une bénédiction de pouvoir avoir Lourdes à côté. Parce que du coup, on peut y aller quand on veut. C'est un self-service. Nous, on a beaucoup de chance.
Là, vous sortez les bouteilles du sac pour les remplir d'eau. C'est de l'eau bénite ou c'est de l'eau de la source?
C'est de l'eau de Lourdes. L'eau de source, juste.
Donc là, Christine, tu aides une dame à remplir sa gourde. Vous vous appelez comment, madame?
Marie. Je suis là parce que je suis descendue par urgence parce que mon garçon de 22 ans qui est schizophrène a été récupéré ici comme un clochard. Et il est en psychiatrie à la 9 ans, voilà. Donc là, il m'a demandé de l'eau de Lourdes.
Et toutes vos prières?
J'en fais beaucoup. C'est un garçon qu'on a adopté et je peux vous dire que depuis l'âge de 11 ans,
c'est compliqué.
C'est E avec l'enfer avec un grand E. Heureusement, c'est ma foi qui me porte. Parce que ça m'a fortifiée. Vraiment.
Alors, la grotte où l'on prie, la main qui caresse, les parois lissées par le passage de millions de pèlerins, les bouteilles remplies à l'eau de source, on a entendu autant de gestes répétés depuis que la jeune Bernadette Soubirou rapporte sa première vision de la Vierge en 1858 dans la grotte de Bassavielle. Mais pour beaucoup de pèlerins, Lourdes, c'est autant, sinon plus, Manon, la recherche, semble-t-il, d'une rencontre que d'une guérison.
Oui, tout à fait, Geneviève. En plus des pèlerins valides, il y a aussi les malades qui logent dans des lieux d'accueil médicalisés spécifiques à Lourdes. C'est le cas de Christian que nous allons entendre. Mais Lourdes, c'est aussi tous ces cabossés de la vie qui viennent chercher du réconfort. Didier, par exemple, que j'ai rencontré à la Cité Saint-Pierre, le lieu d'accueil du Secours catholique pour les personnes en situation de précarité à Lourdes. Le pèlerinage, ainsi que l'association ATD Carmonde, lui ont, dit-il, redonné la parole.
Ça me fait du bien. Le saut de solitude, c'est d'amour qui m'a manqué en tant petit. Et ça, bon, l'amour qu'on me donne ou en pèlerinage ou à l'ATD, bon, pour moi, ça me fait une famille et on est bien avec eux.
Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien à Lourdes?
C'est le regard des gens qui font, là, quand on est après le repas, là, en train de boire le café, là, les regards des gens qui sont différents. Et ça, ça me touche profondément.
Vous espérez guérir à Lourdes ou pas?
Oui, guérir et me donner une force de Jésus là-haut, qui m'a donné une force plus grande. J'ai besoin d'être soulevé. Non.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous vous appelez comment?
Christian. Et je suis en vacances à Lourdes pour un pèlerinage naturellement. C'est tout avec tous les malades. Et moi je suis malade aussi.
Vous souffrez de quoi?
Les poumons. J'ai un manque d'oxygène dans mon sang.
Et pourquoi vous venez à Lourdes?
Pour me recueillir. Pour voir la Vierge. On peut toujours avoir espérance, hein, voilà. Et tous mes amis, je me suis fait ici. Ah, j'ai fait beaucoup d'amis ici, hein. Ah ouais.
Vous venez tous les ans?
Tous les ans, depuis 6 ans.
Et vous espérez une guérison?
Non, guérir, non, je pense pas, hein. Ça peut arriver, hein, mais je pense pas. J'ai dû arrêter de travailler pour mes poumons. Et pour les autres maladies que j'ai. C'est 3-4 maladies.
Vous faisiez quoi avant d'être malade?
Avant d'être malade, je travaillais à l'usine. Dans la mécanique, j'étais. Et après, j'ai eu un accident de travail et voilà. J'ai perdu un œil. Ouais. Mais quand je vois tous ces malades ici, à Lourdes, moi je dois pas me plaindre, hein. C'est vrai, hein, il y a pire que moi. Hein. C'est vrai. Hein. Mon frère ici, j'ai acheté un cadeau pour lui parce que il est gentil. Moi, parce qu'il me conduit beaucoup. Parce que moi, je sais plus marcher longtemps. Rapporter une grotte avec une vierge dedans. Avec la lumière, s'il vous plaît.
Il ne s'agit pas de mettre votre maillot de bain et de faire le crawl ou tout ce que vous voulez ou la brasse, pas du tout. C'est une baignoire en pierre dans laquelle vous descendez par 3 marches.
Et on se dirige avec vous, Manon, vers les piscines situées le long du gave de Pau, juste après la grotte, où vous avez rencontré Arlette.
Oui, tout à fait, Geneviève. J'ai rencontré donc Arlette qui est piscinière. Elle, c'est une ancienne prof de maths belge et elle revient chaque année à Lourdes depuis ses 14 ans. C'est elle qui m'a expliqué en détail comment fonctionnent ces piscines, comment on baigne les malades qui viennent s'immerger dans cette eau de source.
Sachant que certains sont dans des fauteuils roulants, voire sur des brancards. Hein.
Tout à fait, ou des voiturettes mécaniques. Moi-même, je n'ai pas pu m'y rendre par respect évident pour l'intimité des malades. Arlette a longtemps été hospitalière d'accueil avant de devenir bénévole aux piscines, dans ces piscines non mixtes. Et voilà son regard sur le soin et l'accompagnement.
C'est soigner une personne comme si c'était votre grand-mère, qui ne sait plus se déplacer correctement, qui ne sait plus se laver toute seule, qui est grabataire. Et j'ai appris sur le tas les gestes pour faire une toilette. D'abord une toilette féminine, mais aussi une toilette masculine, même intime. C'est venu comme ça, aidé par une autre hospitalière chevronnée qui m'expliquait on m'a tout de suite envoyé voir un peu les piscines. J'ai fait une première fois, une après-midi, piscine, j'apprenais. J'ai eu envie de retourner une deuxième fois. Jusqu'au moment où j'ai dit mon appel est aux piscines. C'est là que tu me veux, Seigneur. C'est là que je me sens vraiment à ma place. Quand vous êtes là à l'intérieur de la piscine et que vous sentez une personne qui commence à trembler parce que les larmes viennent, vous savez qu'il y a là une souffrance. Vous ne pouvez rien y faire si ce n'est prendre la personne et peut-être par une pression de la main ou en la serrant un peu contre vous, lui faire comprendre qu'elle n'est pas toute seule. Voilà ce qui est pour moi Lourdes.
Et les malades ne s'y trompent pas, on écoute René à la sortie de la piscine.
Moi je ne rentre pas dans la piscine, c'est un drap qu'on me met mouillé. Voyez, regardez, j'ai les larmes aux yeux, mais voilà.
Comment elles s'y prennent les piscinières avec vous?
Oh, elles sont superbes. D'ailleurs, elles m'ont embrassée parce que moi, quand j'étais aspergée d'eau, les larmes me sont coulées sans que je sache pourquoi et comment. Mais d'ailleurs, j'ai encore les yeux mouillés. Tellement ça m'a imprégné d'intérieur. Et elles l'ont vu. Elles l'ont vu que ça me faisait quelque chose. J'ai l'impression qu'on m'enlève des tas de trucs méchants de moi. Vous savez, libérée, voilà, libérée. C'est une libération et un repos. Une libération surtout. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau.
Alors, nous le disions au début de cette émission, sur 7000 guérisons, à Lourdes, seules 70 ont été reconnues par l'Église comme miraculeuses. Et Manon, vous êtes allée au bureau des constatations médicales, c'est le nom, dans le sanctuaire, et vous avez rencontré le médecin qui est le président de ce bureau, qui, il faut le préciser, existe depuis 1883. Alors, à l'époque, c'était pour remédier à la pagaille dans les déclarations de fausses guérisons.
Tout à fait, et puis c'est toujours un peu le cas, hein. Ce médecin s'appelle Alessandro Di Francisis, il est italien, il exerçait comme pédiatre à Naples, et voilà ce qu'il dit sur son travail qui est mené de manière collégiale et rigoureuse.
Ce que nous menons à Lourdes, moi et mes confrères, c'est la recherche de la vérité. Pour nous, c'est impératif que la guérison soit arrivée à manière inattendue, soudaine, imprévue, à manière complète, à manière durable dans le temps et à manière pour laquelle il n'y a pas d'explication connue. Nous décrivons ça. Il n'y a pas de conflit en ça. Parce qu'on fait ce qu'on fait dans les grands centres hospitaliers universitaires. Et c'est après, et seulement après la confirmation du Comité médical international de Lourdes, qu'on entre en religion. Et justement, nous sortons du jeu. Lourdes n'est pas en elle-même une clinique. Le fait qu'à Lourdes, il y a une guérison, ou s'il y avait 3 millions, ça ne fait aucune différence. Le vrai miracle est Lourdes lui-même.
Alors, Manon, vous l'avez constaté, le vrai miracle à Lourdes, c'est ce qui s'y vit.
C'est en tout cas ce que disent les malades et le recteur du sanctuaire, le père André Cab. Il m'a raconté cette histoire qui l'a particulièrement marqué.
C'était une hospitalière, donc une personne qui accompagne les malades à Lourdes, qui était à Toulouse ou à Bordeaux dans un grand magasin avec sa fille. Puis dans une allée de ce grand magasin, elle voit un brancard. Quelqu'un autour, à côté, qui accompagnait ce monsieur sur un brancard. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et la maman répond, il fait ses courses. Et la fille lui répond, tu te crois à Lourdes? À Lourdes, on peut ne pas s'étonner de voir quelqu'un qui, sur un brancard, fait ses courses. Ailleurs, il y a eu un accident, il y a eu un malaise, il y a eu quelque chose, on a appelé les pompiers. On ne croise pas les malades. Ici, vous les croisez à la pharmacie, dans la rue, les enfants handicapés, les gens tordus, et tout. Hein. On avait dit, dans Nouvelle Obs, il y a une cinquantaine d'années, Lourdes, le zoo des malfoutus. Voyez, je crois qu'on découvre notre humanité. Et pourquoi on aime ici? Pourquoi ça ne fait pas peur? Parce que justement, ailleurs, nous faisons peur à nous-mêmes. Ailleurs, nous avons peur de nos propres handicaps, que nous renvoie évidemment la personne malade que nous croisons. Ici, ben voilà, on accepte de voir aussi ses propres handicaps. Et du coup, on en a moins peur et on est heureux.
C'est vrai qu'à Lourdes, il y a vraiment un effet d'inversion de la norme. Et puis, le service et la gratuité prime, j'ai pu le constater par exemple en interrogeant le docteur Jean-Pierre Dussol, qui est pneumologue et qui vient chaque année depuis 30 ans en tant que médecin accompagnateur. Lui, il assure la continuité des soins et voilà ce qu'il m'a dit sur ses séjours à Lourdes.
Moi, je viens parce que j'y viens chercher un ressourcement. Toute l'année, j'exerce mon métier. J'exerce mon métier, bien entendu, j'espère, avec passion et intérêt pour mes malades. Mais il y a aussi, parce qu'elle est indissociable, une relation financière. Quand je viens ici, j'abandonne la situation ou le rapport financier de mes malades et je ne vois plus qu'un rapport de service. Et ce rapport de service, en plus, mis sous le regard de Marie. Et ça, il n'y a aucun autre lieu où ça puisse être retrouvé, puisque seul Lourdes est un sanctuaire marial prenant en charge des malades. Aucun autre sanctuaire malade, ou marial plutôt dans le monde, ne prend des malades en charge. Donc, et puis j'ai trouvé mon bonheur la première fois que je suis venu ici. Je suis venu une fois en pèlerinage. Ma mère faisait des pèlerinages antérieurement ici, où était au service du rosaire. C'était pas le diocésain. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé surtout une grande famille, une grande passion, une grande amitié, une grande fraternité avec les hospitaliers et les malades. Depuis 30 ans, comme Obélix tombé dans la potion magique, je reviens chaque année. Voilà.
Et c'est le même attachement à Lourdes pour Philippe Brancardier qui vient, lui, depuis l'âge de 15 ans et ça fait 39 ans qu'il manque pas le rendez-vous.
Mon arrivée dans les Brancardiers s'est faite à la suite d'une interro de religion à l'école où j'avais eu un 18 sur 20 mention « Viens me trouver après le cours ». Hein, et donc c'était un prêtre qui nous donnait le cours de religion. Et en fait, il m'a dit « Oh, toi, je sens que t'es un bon garçon, tu devrais venir à Lourdes. » Et j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit, je vais y retourner. Et je suis revenu, et puis je suis revenu, et puis je continue à revenir. C'est viral, en fait. Donc, c'est quelque chose qui vous prend. Et en fait, quand vous venez ici, vous pensez que vous allez donner. Et en effet, vous donnez. Et en réalité, quand vous rentrez, vous vous rendez compte que vous avez reçu beaucoup plus que ce que vous avez donné. C'est ça aussi Lourdes. Moi, je suis un cartésien, ingénieur de formation, donc il y a quand même des petites choses que vous pouvez comprendre que j'ai peut-être difficile, je vais pas dire à admettre, hein. Bon, on dit beaucoup, c'est une question de foi, mais bon, il y a rien à faire aussi, hein. Quand on connaît un petit peu la physique, il y a des choses, on se dit, ça, c'est pas vraiment possible, hein. Mais comment vais-je dire, il faut pas en effet avoir une foi inébranlable pour venir ici à Lourdes. Il faut simplement avoir l'envie d'aider, tout simplement. Je me souviens que nous avions eu deux hospitalières nord-africaines musulmanes qui faisaient le Ramadan, qui sont venues ici à Lourdes. Elles ont été exceptionnelles, ces filles, exceptionnelles. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour venir à Lourdes. Aider, c'est international et ça passe à travers les religions, hein, largement. Le miracle de Lourdes, c'est cette aide qui est faite sans compter. Quand je suis revenu tout à l'heure avec cette personne qui avait un petit souci, il y avait pas mal de monde dans la rampe et puis j'ai senti à un moment donné que j'avais ma voiturette qui était plus légère. Je me suis retourné pour être sûr quand même que je n'avais pas perdu la personne, et c'était tout simplement deux personnes d'un autre pèlerinage qui me donnaient un coup de main, quoi. Et ce sont toutes des petites choses comme ça. C'est ça le miracle de Lourdes, où on donne sans compter et on n'attend pas quelque chose en retour.
Le car 4, on démarre aussi, mais j'ai personne.
Madon, on est où là? Ça sent le départ, hein.
Oui, tout à fait, on est juste devant l'accueil Notre-Dame, un bâtiment de 5 étages dans lequel logent les malades. Et c'était le départ du pèlerinage diocésain d'Aix-en-Provence. Il repartait de Lourdes en autocar. Et sur le parking, Marcel, hospitalier à Aix, m'expliquait la logistique de ce départ.
Des cars spéciaux qui sont équipés avec ce monte-charge pour pouvoir monter les malades, soit sur des chaises roulantes, soit sur des grands lits, quoi. Voilà.
Tu vois, André, j'ai vu d'aller prendre le camion.
On part dans le car.
Et vous vous sentez comment?
Ben, très bien. Et ça a été vite fait. On l'a pas vu passer cette semaine.
Votre prénom, c'est Léonie?
Léoncie.
Léoncie.
Ah oui, c'est pas Léonie.
Léoncie, d'accord. Et vous reviendrez l'année prochaine ?
Non, l'année prochaine, je ne peux pas revenir parce que je ne sais pas si je serai encore en vie. J'ai 97 ans.
Vous voulez monter ? Oui, oui. Bon, je vous laisse monter sur le monte-charge. Merci. Au revoir, Léoncy.
Allez, au revoir, Manon.
Est-ce que vous êtes hospitalier? Ouais. Comment vous vous sentez sur le départ?
Très ému, même extrêmement ému en fait, parce que ces personnes, on s'attache hyper vite. Et du coup là, je sais pas, les laisser partir comme ça fait bizarre quoi. Voilà.
Oui, vous avez un peu les larmes aux yeux.
Ah, à peine.
Vous vous appelez comment?
Salomé.
Et vous?
Oscar.
Et vous avez quel âge?
Moi, 17.
17. Alors franchement, ils vont nous manquer. Parce qu'ils étaient super sympas. En fait, quand on vient ici, c'est un peu comme, c'est un lieu un peu utopique, c'est un peu coupé du réel. Les gens, ils sont vraiment super sympas. Et c'est vraiment que du bonheur. Et quand on repart, c'est un peu le retour vers la réalité. Et ça va être dur.
Je le devine, un même sourire les illumine.
Penitenzo, penitenzo.
Voir ce qu'on se refuse à croire, ce qui échappe à nos regards.
Mais qu'on se laisse à recevoir,
pour donner un nom à l'espoir, un rendez-vous pour autre part.
Alors Manon, là nous sommes à l'espace Robert Hossein, donc qui est la salle des fêtes de la ville de Lourdes. Et depuis le début juillet, la comédie musicale Bernadette de Lourdes fait un tabac. Alors avec le documentaire Lourdes et ses plus de 200 000 entrées, de l'autre cette comédie musicale à gros budget, est-ce que l'on peut parler d'un nouveau souffle pour Lourdes?
J'ai posé la question à Thierry Demézières et Alban Terlet, les deux réalisateurs du documentaire Lourdes. Ils sont athées et agnostiques. Et je leur ai demandé s'ils avaient le sentiment d'avoir participé au lifting du sanctuaire. Thierry Demézières m'a répondu tout à fait franchement.
On nous a dit, un, que c'était bien que ce soit des non-croyants qui fassent un film sur Lourdes. Et certains nous ont dit, vous avez déringardisé Lourdes. Mais ça, c'était pas notre intention. On est portraitiste avec Alban Terlet. Et on avait fait des sujets très différents, comme des danseurs de l'Opéra de Paris ou un film sur Rocco Siffredi. Donc, on est très éclectique et on avait l'impression, l'intuition qu'il y avait une sorte de condensé d'humanité et un film à faire sur la condition humaine à Lourdes, donc on y est allé pour ça.
Et à Alban Terlet, je lui ai demandé s'il était encore habité par Lourdes.
Ben, c'est toujours étonnant de revoir un film 2 ans après l'avoir tourné, parce que quand on le tourne, en fait, on est protégé par la caméra. Donc je l'ai redécouvert comme un spectateur et j'ai été parfois pris par l'émotion, comme si je les découvrais, quoi.
En tout cas, en ce qui concerne la comédie musicale, le recteur du sanctuaire, le père André Cab, se réjouit de ce mélange assez improbable entre showbiz et religion.
Ils font passer là ce que moi, pauvre petit prêtre au pied des Pyrénées, ben voilà, j'aurais sans doute moins d'influence, moins de possibilités de faire entendre que ce spectacle avec son rayonnement.
Et pour le producteur Roberto Surleo, qui est croyant, cette comédie musicale rajeunit la figure de Bernadette.
Elle remet un peu Bernadette ici au centre de... Enfin, Bernadette est un peu oubliée ici, parce que, et c'est normal, elle voulait ça aussi, elle est partie à Nevers. Ici, on y va, quand les pèlerins viennent, c'est pour la Vierge Marie, c'est une ville aux apparitions mariales, donc c'est vraiment particulier. Sauf que on s'aperçoit que ce personnage de Bernadette, que beaucoup ont oublié, est en train de faire en sorte que les gens ont envie de revenir à Lourdes et d'en savoir un peu plus.
Bonjour Emma.
Bonjour.
Tu interprètes Bernadette Soubirou sur la comédie musicale de Lourdes. C'est quoi ton parcours d'artiste?
Alors moi j'ai commencé toute petite en chantant devant des karaokés sur YouTube. Et puis après j'ai fait des karaokés devant des gens. Et après j'ai fait des scènes sur Paris. J'ai fait The Voice Kids 2, donc en 2015. Et là, bah là, je fais Bernadette.
Comment tu t'es retrouvée ici dans ce rôle ?
Alors en fait, j'ai passé un casting en janvier. Il fallait apprendre la chanson Pourquoi moi, donc la première chanson du spectacle. Et donc moi, en fait, j'y suis allée un peu à la cool, en fait. Je me suis pas mise de pression et je connaissais pas forcément Lourdes, etc. Et ce qui me freinait un petit peu, c'était le côté religieux, parce que c'est un peu un sujet vaste. Et au final, bah, on raconte juste l'histoire de la petite fille qui a vécu cette histoire-là. Et donc, on la raconte. C'est une petite fille comme toutes les filles de notre âge. Et voilà, là, c'est moderne, déterminée, et elle va toujours au bout de ses idées. Et je pense que c'est un bon message aussi pour les jeunes d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, il faut croire en ses rêves et toujours aller au bout de ce qu'on veut faire.
Ta chanson préférée, c'est quoi ?
Quand tu t'en iras, peut-être.
Est-ce que tu pourrais m'en faire un petit morceau à cappella ?
Ouais. Okay. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser la tendresse pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de faiblesse. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser de l'amour. Quand tu t'en iras, oh Marie, prends pitié. Oh Marie, prends pitié.
Et ce reportage à Lourdes s'achève avec Bernadette de Lourdes qui va se produire tout l'été jusqu'au 5 octobre. Merci Manon Meyer-Ilfigère pour vos beaux témoignages qui racontent le phénomène Lourdes.
Merci Geneviève.
On a besoin de toi pour apprendre à devenir grand. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser de la paix.
Religion du monde, Geneviève Delru. Et nous quittons Lourdes et les Pyrénées françaises pour rejoindre le Pays basque espagnol voisin avec Philippe Lemonnier, qui a parcouru pendant 27 jours les 700 kilomètres qui séparent Loyola, la ville où est né Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, de la ville de Manresa, en Catalogne, où le jeune basque a vécu une année de 1522 à 1523 et où, dépouillé de tout, il a écrit ses célèbres exercices spirituels. Philippe Lemonnier n'est pas un randonneur, mais un marcheur qui écrit sur les régions qu'il arpente, la Bretagne, la traversée des Alpes, le chemin qu'empruntaient les Huguenots en route vers la Suisse, et il est l'auteur chez First de Compostelle pour les nuls. Ce chemin de conversion qu'emprunta le jeune militaire basque en quête de Dieu après une blessure de guerre à la jambe, Philippe Lemonnier a voulu le vivre et il s'est mis lui-même en route. De cette marche est né un livre, Inigo, chemin faisant sur les pas d'Ignace de Loyola, publié chez Alma Michel. Une invitation au voyage culturel et spirituel qu'il nous a raconté accompagné du chant des cigales de la Drôme où cet amoureux de la nature vit.
Emprunter des chemins qui ont du sens me passionne et quand j'ai découvert ce chemin-là, j'ai eu qu'une seule idée, c'était de partir, comme sur les autres chemins. Ça, c'est, je crois, la raison principale. Après, on pourrait rajouter que ce chemin était aussi pour moi important parce que c'est pas qu'un chemin, c'est une aventure humaine, c'est l'aventure humaine d'un personnage, Ignace de Loyola. Et que la chose qui me passionne dans la vie, c'est de raconter des histoires et c'est de partir sur les pas de certaines personnes pour voir comment ils ont pu vivre et pour également tenter de retrouver des traces à quelques siècles de différence, 5 siècles en ce qui concerne Ignace de Loyola.
Alors, Ignace de Loyola qui va partir donc de son Pays basque natal parce que son but, c'est d'aller à Jérusalem. Lui, le jeune basque, quelques années avant, militaire, qui a une vie, alors je ne sais pas, on peut dire de débauché, mais en tous les cas, bon, une vie très libre, semble-t-il, qui va effectuer un véritable chemin de Damas lors d'une bataille à Pamplune où il est blessé, très fortement blessé à la jambe. Et là, c'est le début de la seconde vie d'Ignace de Loyola, donc fondateur de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire des Jésuites.
Oui, alors disons que là, c'est son chemin qu'on appelle son chemin de conversion. C'est, il se convertit pas avant, même s'il faudrait qu'on précise ce qu'est la conversion. C'est son chemin. Il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement à la bataille de Pampelune, il y a cette blessure qui lui détruit une jambe sans épargner l'autre. Ça, c'est le premier élément. Il y a ensuite la nuit qu'il passe à Loyola. Où tout le monde pense qu'il va mourir, il reçoit l'extrême onction et puis finalement, miraculeusement, il survit. Il va survivre à cette nuit. Et puis il y a un troisième élément qui est le fait que au cours de sa conversion, il va souhaiter lire des livres de chevalerie qui n'existent pas à la maison natale, à Loyola, et donc il n'a que trois livres à sa disposition, qui sont donc les Évangiles, l'Imitation du Christ et les légendes dorées de Jacques de Voragine, qui fait que, lecture faisant, il va tout d'un coup se dire, mais voilà, c'est ça que je veux faire aujourd'hui, je veux plus de la gloire en étant militaire, je veux de la gloire en vivant la vie d'un saint. Voilà. Et il y aura un quatrième élément qui sera déterminant dans le début de la démarche. C'est le début de la démarche. C'est le fait qu'il va avoir une vision qui va l'enchanter. Alors peut-être est-ce une vision de la Vierge Marie, parce que c'est quelqu'un qui va honorer toute sa vie au-delà de Jésus, auquel il va vraiment consacrer sa vie. Voilà. C'est les quatre éléments qui vont faire que cet homme va avoir envie de partir à Jérusalem sur les pas de Jésus. Et à partir de ce moment-là, en prenant le chemin, il va y avoir, comme toute la force du chemin, c'est une forte spiritualité, c'est un chemin initiatique. Au cours du chemin, il va affiner, non seulement physiquement, mais psychologiquement, sa destinée au cours du chemin.
Quel est le siècle dans lequel vit Ignace de Loyola ? On est à la fin du Moyen-Âge, on est en train de passer, de basculer vers la Renaissance.
Alors, on bascule dans la Renaissance. Loyola naît en 1491, et si on veut situer 1491, c'est l'année précédente 1492, qui est l'année de la Reconquista. C'est l'année de la fin de la Reconquista. C'est que la conquête par l'Église de Rome de l'Espagne, qui était préalablement et depuis le 7e siècle, aux deux tiers, voire aux trois quarts musulmanes. Alors, on est à ce moment-là. Il naît, quand il est à Pampelune, en 1521, il a donc 8 ans et 9 ans, il a 30 ans. Trois ans avant, Luther publie ses 95 propositions. On est donc au temps de la réforme. L'imprimerie réellement démarre à part les incunables entre 1451 et 1500. L'imprimerie démarre réellement au moment à ce moment-là. Donc là, les idées se véhiculent. Et puis l'Europe est en marche. Ça veut dire aussi que les idées circulent non seulement à travers les livres, mais à travers les voyageurs qui vont à la Sorbonne, comme Ignace de Loyola ira après, qui vont à Rome, qui vont à Oxford, qui vont à Berlin.
C'est une Europe aussi où les pèlerins sont en marche.
Alors, les pèlerins sont également en marche. Alors, un tout petit peu moins sur Compostelle, qui est assez particulier, enfin, qui peut-être la mesure un petit peu moins sur Compostelle juste à ce moment-là. Mais on est encore quand même dans le phénomène Compostelle. Oui, absolument.
De quel milieu est issu Ignace de Loyola, donc ce jeune militaire basque?
Alors, c'est un homme de petite noblesse, une petite famille de noblesse, une famille qui croit encore aux valeurs du Moyen-Âge. Donc avec la servitude, alors ça s'appelle pas comme tout à fait comme ça la servitude, le nom m'échappe là sur l'instant, mais il est encore dans cet état d'esprit là lorsqu'il est énégo de Loyola.
Combien de temps va-t-il mettre véritablement pour se dépouiller, hein, c'est votre se défaire de ses habits d'hidalgo? C'est votre expression, semble-t-il, là.
Oui, absolument. Son expression de Bellator ou d'hidalgo. Il va mettre, donc il arrive au bout du 26e jour, 27e jour à Mandrez. Au 26e jour, il est à Montserrat. Et c'est à ce moment-là, en passant deux ou trois nuits là, qu'il va quitter ses habits de petit noble pour endosser la robe de bure, la corde, le bâton et les sandales.
Ça n'est plus du tout le jeune homme, le jeune militaire fringant.
C'est plus du tout. Non, non, non. Là, il y aura du temps d'hésitation au cours du voyage. D'ailleurs, il y a un incident qu'il relate lui-même. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que Loyola a écrit plusieurs choses. Que les deux choses, pour moi, principales, au-delà du pavé qui est la réglementation de la constitution, la fondation de la Compagnie de Jésus, ses réglementations, il y a deux ouvrages. L'un qui sont les exercices spirituels, qu'il écrira à Mandresa, justement, à l'arrivée du chemin, et qui, cinq siècles après, se trouve dans n'importe quelle librairie. Et puis, à 62 ans, beaucoup plus tardivement, ses compagnons vont le tanner pour qu'il écrive le récit de sa vie.
Et ça, c'est 3 ans avant sa mort, ça.
3 ans avant sa mort. Donc, il va raconter son voyage de 1522 en 1550 et quelques, donc avec 30 ans de recul. Et il va le raconter uniquement pour édifier ses compagnons, et pour édifier les compagnons de Jésus, pour dire, voilà, regardez le mauvais sujet que j'étais dévolu, comme l'expression qui est reprise par la couture, je crois, je ne voudrais pas me tromper, mais c'est un de ses biographes qui il culbutait volontiers les chambrières dans les escaliers, malgré qu'il était amoureux de l'infante, il dégainait assez facilement son épée. Regardez comment, à travers mon parcours, à travers mes exercices spirituels, regardez comment ce que je suis venu, comment j'ai réussi à servir un roi intemporel, un dieu, alors que je servais un roi temporel.
Oui, donc le roi, en l'occurrence, c'était l'empereur Charles Quint. Oui. Mais oui, ça rappelle d'ailleurs Charles de Foucault.
Alors, ça rappelle Charles de Foucault et ça rappelle surtout, Saint-François. Voilà, et qui est Saint-François, qui est en fait un des deux modèles avec Saint-Dominique, un des deux modèles d'Ignace de Loyola, qui fait qu'il aura envie de vivre cette vie de saint. Et d'ailleurs, j'ai entendu, je ne citerai pas le nom du philosophe là, mais c'est une anecdote qui disait à propos du pape François, regardez, c'est un jésuite et il prend le nom d'un franciscain. Sauf qu'il ne savait pas que Saint François est le saint patron d'Ignace de Loyola, et qu'effectivement, c'est aussi le modèle des jésuites.
Et pour compléter, il s'habille comme un dominicain.
Et il s'habille comme un dominicain, oui. C'est exact. Comme quoi, bon, les choses ne sont pas toujours aussi évidentes au premier degré. Que des fois, il faut un peu chercher la vérité ailleurs.
On va reprendre ensemble, Philippe Lemeunier, ce chemin que vous avez emprunté, le même chemin qu'Ignace de Loyola, donc en route vers Manresa, 700 km. Alors, lui, il les a fait manifestement à cheval, vous, à pied. Lui, il les a fait accompagner, vous, seul.
Alors, non, il les a fait à cheval. Il les a fait à cheval, ça c'est sûr, parce qu'il était blessé et qu'il avait du mal à marcher. Mais j'ai considéré que c'était quand même un marcheur, comme beaucoup de gens à cette époque, parce qu'en reprenant ses parcours officiels, c'est-à-dire ses grands parcours, pas du tout ses déplacements quotidiens, il a fait plus de 10 000 km à pied. Entre la France, où il va faire ses études, entre l'Italie, où il va rejoindre ses compagnons, entre son retour en Espagne, son voyage à Bruxelles, son voyage en Angleterre.
Oui, ça c'est plus tard ça, mais pour ce chemin entre le Pays Basque et la Catalogne.
Oui, on est d'accord, mais je voulais dire que c'était quand même, il avait un esprit quand même de voyageur à pied. Voilà. Alors, entre le Pays Basque et la Catalogne, il est sur un cheval. Alors, certains parlent d'un cheval, d'autres parlent d'une mule, l'autre parle, bon, tout le monde n'est pas d'accord sur la qualité du cheval.
Oui, parce que les chemins sont escarpés, dans l'Aragon notamment. Alors, une mule serait peut-être plus adaptée, non ?
Non, c'est pas pour ça. C'est que ça fait partie, a priori, dans la légende, du dépouillement d'Ignace. De quitter tout ce qui peut être un petit peu luxueux, entre guillemets. Puisque c'est ça. Ce qu'il veut, lui, c'est marcher pieds nus et manger de l'herbe pour montrer sa force. Voilà. Mais moi, je ne suis pas complètement convaincu que c'était une mule, purement et simplement, parce qu'il le dit lui-même, il est très soucieux assez tardivement sur le chemin de son apparence par rapport à l'honneur de sa famille. Et donc je le vois mal, à la fois habillé en gentilhomme, avec son épée de cour qu'il emmène, sa dague de cour et monter une mule. Bon, sauf si effectivement, physiquement, il n'était pas en mesure de monter aussi haut. Mais voilà, dans tous les cas, il le fait tout seul, parce qu'il part avec son frère, avec une petite troupe, mais dont il va se séparer au bout de 3 jours. Il ne veut absolument pas qu'on l'accompagne sur ce chemin pour être libre de se dépouiller au rythme où il va le vouloir. Pas du tout. Sa famille sent bien qu'il va faire quelque chose qui n'est pas dans le manuel, voudrait l'en empêcher, donc, mais lui, il veut être tout seul. Et donc, très rapidement, après Aranzazu, donc dans les premières étapes, il va faire le chemin tout seul.
Vous écrivez, Philippe Lemonnier, c'est l'humanité de l'homme que j'ai traqué à travers ce chemin, donc ce chemin de 700 km qui vous a mené du Pays Basque à la Catalogne.
Oui, parce que ce que je crois profondément, c'est que c'est la bipédie qui nous fonde.
C'est-à-dire la marche, hein, c'est
la
ça
marche. C'est surtout la bipédie, le fait d'être bipède. Alors après, à partir du moment où on est bipède, nous sommes un animal qui marche. Nous sommes un animal qui a conquis l'ensemble de la Terre, à quelques exceptions près, en pirogue, à pied. Et lorsque un enfant est né, ce qu'on attend, c'est ses premiers pas. Et lorsque, malheureusement, sauf exception quand on est malade, lorsqu'on commence à ne plus pouvoir marcher, ben c'est qu'on approche d'un autre monde. Lorsque je réécoutais à la radio ce matin, lorsque Neil Armstrong lorsqu'il pose le pied sur la Lune, il dit « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Et de manière générale, je pense que notre monde est un peu fou, et que si on revenait la mesure à l'aune du pas de l'homme, on vivrait dans un monde différent. Donc je pense que c'est tant que l'homme va marcher, et tout ce qu'il a fait, sauf depuis 150 ans, où il y a l'avènement du chemin de fer et de la voiture, tout ce qu'il a fait dans le monde, il l'a fait à pied. Donc ce chemin-là, que lorsque l'Ilia, même s'il est à cheval, pour des raisons uniquement de santé, enfin de pratique, avec sa jambe qui est esquintée, c'est un chemin d'humanité, absolument.
Philippe Lemonnier, vous dites souvent dans le livre « Et Dieu dans tout ça », vous aimez comprendre ce qui met en marche les personnes. Vous aimez aller sur les chemins spirituels.
Oui, parce que ce que j'aime, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les chemins qui ont un sens. Il y a des chemins qui sont définis comme étant des chemins de spiritualité. Le Trobrez, le chemin de Compostelle, peut-être Lourdes, peut-être le Mont-Saint-Michel, voilà. Mais c'est pas ce qui fait, pour moi, la spiritualité du chemin. Ce sont des chemins qui peuvent être comme Compostelle avec une force tellurique ou une force que je trouve humaine, c'est-à-dire du passage de tant de milliers d'hommes, on se sent porté. Mais c'est pas le chemin qui est spirituel, c'est le voyage à pied, le voyage initiatique. Celui qui part au long cours, quelle que soit la raison pour laquelle il part, même des exils, des évasions, pas seulement du voyage d'agrément, pas seulement du voyage de pèlerinage, celui qui part voyager au long cours, nécessairement, il naît sur le chemin, une spiritualité qui peut être très forte, qui peut aller jusqu'à la confessionnalité. Voilà. Mais ce n'est pas le chemin en lui-même. Alors bien sûr, on a identifié des chemins spirituels, je les ai cités, mais ce n'est pas le chemin qui est spirituel. C'est la démarche de la personne qui est confrontée des jours et des jours et des semaines à lui-même, à l'extérieur, naît nécessairement, pour moi, une spiritualité.
Il y a un avant, un après ?
Je pense qu'il y a toujours un avant et un après dans un chemin, quand on est parti. Encore une fois, je parle bien du voyage en long cours. C'est très important. Le fait de partir une semaine, même sur Compostelle, ne me semble pas suffisamment long pour que... il peut y avoir des gens qui ont la foi, bien sûr, mais pour que naît une nouvelle spiritualité. Mais sur un voyage en long cours...
Au long cours, pour vous, c'est quoi ? C'est un mois minimum ?
C'est plusieurs semaines, je ne pourrais pas dire. J'ai tendance à dire, à penser qu'on commence à descendre dans le voyage, vraiment dans le voyage, au bout de 10-15 jours. C'est-à-dire qu'on commence à avoir oublié tout ce qui nous semblait essentiel préalablement, la télévision, la radio, les informations, le téléphone, etc., pour considérer que ce qui nous semblait accessoire la veille, un verre d'eau quand on a soif, on ouvre le robinet, on oublie même de le fermer, mais que tout ça va devenir essentiel sur le chemin. Avoir un pull parce qu'on a un peu froid, avoir rencontre parce qu'on se trouve un petit peu désemparé humainement, on fait une rencontre, boire de l'eau, manger avec faim, avoir faim, manger en ayant faim ou boire en ayant soif. Et là, à travers ce nouveau filtre de l'essentiel et de l'accessoire, parce que là, tous les impôts, les trucs comme ça, ça nous semble complètement accessoire sur le chemin, on n'y pense même plus. Voilà. Et à travers ce nouveau filtre, je pense qu'on a une autre réflexion, une autre vision à la fois de sa vie et des événements, à partir de cette aune, de cette nouvelle mesure qui a été depuis 15 jours, 3 semaines, cette séparation des habitudes, cette rupture des habitudes.
Au cours de votre randonnée, je ne sais plus si c'est à Montserrat ou avant, vous parlez de force tellurique. Qu'est-ce que ça veut dire, force tellurique que l'on ressent ?
Alors, c'est peut-être en opposition à la foi. La force de la terre, la force de la pierre, la force des lieux qui nous habitent, que nous traversons, ils nous habitent pas, on les traverse, et tout d'un coup, on a quand même des paysages, on a des lieux qui sont soit parce qu'ils sont emblématiques, ou soit parce qu'on les ressent comme tels, comme par exemple à Montserrat, lorsqu'on voit ces monciers, il y a quelque chose qui nous dépasse. Voilà, ça c'est pour moi la force tellurique du chemin. Une chose aussi qu'on peut ajouter sur la force du chemin qui n'est pas que tellurique, j'ai parlé tout à l'heure de la rupture des habitudes, ça j'en suis complètement convaincu, qu'il n'y a que dans la rupture des habitudes que l'on peut vraiment voyager et non pas être voyagé. Mais il y a aussi une chose qui me semble essentielle qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est le dépouillement. C'est que quand on voyage à pied, on est obligé de se dépouiller. Et ce dépouillement physique, qui va presque jusqu'à l'extrême, enfin qui va à l'extrême pour Loyola, parce que lui il se dépouille de tout, de son argent, de ses vêtements, et là, ce dépouillement physique va venir frapper l'esprit et arriver au dépouillement spirituel. Et ça, c'est peut-être une des grandes leçons, une grande force du chemin que Loyola a poussé à son comble.
Et Dieu dans tout ça, c'est la question que vous avez posée régulièrement pendant ce pèlerinage sur les pas de Loyola à Philippe Lemonnier. Dieu dans tout ça.
Voilà, alors et Dieu dans tout ça, je me suis posé la question d'abord parce que je voulais un fil conducteur dans le livre et dans mon voyage, puisque je partais, je suis toujours prêt, quel que soit le côté vacillant de ma foi, à m'interroger, parce que le mystère, il est toujours là, il y a toujours la force des choses. Donc, et puis, le pèlerinage, on va faire un peu d'étymologie. Au départ, pèleriner, c'est pérégriner, c'est celui qui voyage en dehors de son champ. Ce n'est que vraiment tardivement au Moyen-Âge que le pèlerinage va correspondre à pèlerinage comme Compostelle, ou comme Jérusalem, ou comme Rome. Au départ, on parle du voyage à Compostelle. Bien. Et la définition universelle du pèlerinage actuel, c'est faire un chemin plus ou moins long et difficile pour aller vers un lieu sacré avec une attente. Donc ça, c'est la définition du pèlerinage, et c'est la définition de Compostelle. On fait un chemin plus ou moins difficile, on va vers un lieu sacré qui est l'endroit où la légende veut que l'un des apôtres les plus proches, des compagnons les plus proches de Jésus soit enterré, et puis avec une attente forte, puisque quand on va à Compostelle, au Moyen-Âge, c'est parce que Saint-Jacques, c'est l'intercesseur. C'est celui qui va être présent autour de Saint-Pierre, près de Saint-Pierre, et qui va appuyer sur la balance pour sauver son pèlerin. Mais si vous regardez bien à quoi ressemble cette définition, c'est que le chemin plus ou moins long et difficile vers un lieu sacré avec une attente, c'est la définition de la vie.
Philippe Lemonnier, son livre Inigo, chemin faisant, sur les pas d'Ignace de Loyola, est publié chez Albin Michel. Avec le Camino Ignacio, le nom de ce chemin espagnol, Religion du Monde prend ses quartiers d'été. On se retrouve après les traditionnelles rediffusions du mois d'août. Religion du Monde était présentée par Geneviève Delru et réalisée par Sandrine Straram. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Bonne semaine à tous.